las conferències de la 30a Universitat Occitana d'Estiu registrada e prepausada per Radio Languedoc. Miquel Gévidjan est secrétaire et Isabelle Marilly est membre du CCAF Marseille-Provence. Nous présentons la Communauté arménienne de France, formation et organisation.
Bien, bonjour à tous et nous présentons donc Isabelle Marillier, Madame l'a dit, et Michel Gévidjan. Donc nous sommes membres du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, section Marseille-Provence. Alors nous sommes aujourd'hui chargés de vous parler de la communauté arménienne de France, de sa formation et de son organisation. En fait, l'acte de naissance de la communauté arménienne de France, ou ce que l'on a coutume d'appeler la diaspora arménienne, et le génocide de 1915. Mais, si vous le permettez, avant de parler de cette diaspora, permettez-moi rapidement de faire un petit tour d'histoire. Alors, l'Arménie historique est un pays de haute montagne, une majestueuse forteresse qui s'étend de la plaine de Transcaucasie au pays, au plateau d'Anatolie, c'est-à-dire la Turquie actuelle, de la mer Noire à la Mésopotamie. En fait, je dirais pour mieux situer l'Arménie, on peut dire qu'elle s'organise autour de trois grands lacs, dont l'un est le lac d'Urmia qui se trouve au nord de l'Iran, le lac de Van qui se trouve en Turquie actuelle et le lac Sevan qui est en Arménie actuelle, qui est un pays indépendant depuis 1991. C'est un haut plateau coupé de vallées profondes et fertiles, entouré de chaînes de montagnes de 3 à 4 000 mètres d'altitude, la chaîne Pontique, la chaîne du Taurus, le mont Ararat, où la Bible nous rappelle que l'arche de Noé s'est échouée, culmine à 5200 mètres, et c'est aussi au pied de l'Ararat que Noé planta la première vigne dont le vin l'enivra. L'Arménie est célèbre depuis l'Antiquité pour la qualité et la quantité de ses fruits. C'est d'ailleurs d'Arménie que le général romain Lucullus ramena en Europe le cerisier et l'abricotier. De fait de sa position et de sa configuration qui en font une forteresse naturelle, l'Arménie a été souvent l'enjeu et le champ de bataille des luttes pour l'hégémonie du Moyen-Orient. Alors on va parler rapidement des origines de l'Arménie. Avant l'arrivée des Arménes, peuple indo-européen, l'Arménie était habitée par un peuple autochtone, les Kaldes. Leur royaume s'appelait l'Urartu et s'opposait à l'empire assyrien qui ne parvint jamais à en venir à bout. L'arrivée des Arménes en 700 avant Jésus-Christ de Phrygie entraîna l'écroulement des royaumes Hittites et Urartu, et nous pouvons dire que l'Arménie fut constituée par la fusion des peuples de l'Urartu et des Arménes. Elle devint un état puissant et entra pour la première fois dans l'histoire mondiale par les inscriptions que l'on peut voir et qui ont été découvertes sur la stèle de Behistun en 521 avant Jésus-Christ. On peut y lire que les Arméniens tinrent tête au roi des rois Darius Istapsès, qui était le roi assyrien. Afin de synthétiser l'histoire de l'Arménie, on peut distinguer très rapidement quatre périodes. La première, celle qui va de 521 avant Jésus-Christ à 451 après Jésus-Christ. Et là, on peut retracer cette période par quatre événements majeurs. Le premier est un événement militaire, puisqu'il a trait à la conquête de la Mésopotamie et de la Syrie, de la Cilicie, de la Cappadoce et de la Palestine par le roi Tigrane II, dit Tigrane le Grand, qui régna de 95 avant Jésus-Christ jusqu'en 56 avant Jésus-Christ. Toutes ces conquêtes lui valurent le titre de roi des rois, et à la fin de son règne, il fut vaincu par les Romains. Deuxième événement important, un événement religieux de la plus haute importance, car c'est en 301 après Jésus-Christ que le christianisme devenait religion d'État en Arménie. Ce fait capital devait précéder de 12 ans l'édit de Milan par lequel l'empereur romain Constantin autorisait donc que Rome devienne aussi chrétienne. Nous avons commémoré en 2001 le 1700e anniversaire de l'adoption du christianisme en Arménie, donc ça a donné lieu à une série de commémorations en France, bien sûr, et en Arménie et dans toute la diaspora. Troisième événement, je vais assez vite, c'est un événement littéraire qui est aussi important, c'est la création en 404 après Jésus-Christ de l'alphabet arménien composé de 36 caractères. Jusqu'à cette date-là, l'arménien était une langue parlée, et donc l'écriture utilisée était la langue, était le syriaque. Et donc à partir de 404, l'Arménie avait cessé d'être dénationalisée, puisqu'il avait, l'Arménie avait son propre alphabet. Un événement militaire qui devait aussi assurer à jamais la pérennité de l'Arménie, puisqu'à cette époque-là, l'Arménie était sous domination perse, et les Perses voulaient imposer le mazdéisme, qui est une religion basée sur le culte du feu et de l'eau. Et donc, les Perses voulaient imposer le mazdéisme à l'Arménie chrétienne, et l'Arménie engagea une épreuve de force. Malgré une défaite militaire, grâce à l'obstination des Arméniens, les Perses renonçaient à imposer le mazdéisme à l'Arménie, et on peut dire que de ce fait, ça assurait, grâce à sa religion, une pérennité du peuple arménien et de l'Arménie. Deuxième période, c'est la période qui va de 451 à 1375, et là, trois périodes à distinguer. La première, 451 à 885, c'est la perte de l'indépendance. Cette époque est marquée par la domination de Byzance à l'ouest, de la Perse à l'est, à laquelle succèdent les Arabes de 650 à 859. Deuxième période de 885 à 1095, c'est le royaume des Bagratides, c'est-à-dire que, profitant à un moment donné de la faiblesse du califat de Bagdad, une grande famille issue de la noblesse arménienne, la famille des Bagratides, va réussir à regrouper autour d'elle toute l'Arménie et en assurer son indépendance. Le royaume des Bagratides connut au cours de ces deux siècles d'existence un essor économique, artistique et culturel incomparable. La capitale du royaume des Bagratides était Ani, et on a couramment l'habitude de parler d'Ani, la ville aux mille et une églises. Enfin, la troisième période va de 1095 à 1375. Effectivement, la prise d'Ani en 1064 par les Turcs Seljoukides s'accompagna de massacres sans précédent, à tel point que les chroniqueurs de l'époque parlèrent de bains de sang dans la ville d'Ani. C'est alors qu'eut lieu la première émigration massive d'Arméniens qui cherchèrent refuge, tout d'abord en Crimée, de là en Pologne et en Moldavie. Et puis une autre partie des Arméniens se dirigea sous l'autorité d'un prince issu de la famille des Bagratides vers les montagnes de Cilicie pour fonder un nouveau royaume que nous appelons la Nouvelle Arménie, ou plus exactement l'Arméno-Cilicie. Ce royaume devait garder son indépendance pendant trois siècles. Son influence économique et politique fut considérable en Orient et en Occident. Il convient aussi de rappeler l'aide des Arméniens apportée aux premiers croisés partis à la conquête des lieux saints. On peut rappeler aussi que le dernier roi d'Arménie de cette période a été un prince de la famille des Lusignan, d'origine française, Léon VI de Lusignan, et l'Arménie perdit son indépendance en 1375, vaincue par les assauts conjugués du sultan d'Égypte et des chefs turcomans. Dans un premier temps, Léon VI de Lusignan fut prisonnier au Caire. Libéré en 1332, il mourut à Paris en 1393 et il repose actuellement à Saint-Denis aux côtés des rois de France. Nous passons à la troisième partie qui est celle de 1375 à 1878, l'Arménie sous domination ottomane. Au XIIe et XIIIe siècle, l'Arménie connut une suite de périodes douloureuses causées par les invasions des Tartares, de Gengis Khan, invasions suivies d'atrocités, de massacres et de pillages. À la fin du XVIe siècle, les Turcs réussissent à conquérir l'Arménie, alors entre les mains des Perses. Pendant tout le XVIIe siècle, ce sont des guerres incessantes entre la Turquie et la Perse pour la possession de l'Arménie. Finalement, la Turquie gardera la majeure partie de l'Arménie, laissant aux Perses les régions de la vallée de l'Arax et du lac d'Urmia, puisque Urmia, nous l'avons vu sur une carte précédente, se trouve au nord de l'Iran actuel. Nous allons aborder maintenant la quatrième période que nous intitulerons la question arménienne de 1878 à nos jours. Alors la question arménienne ne date pas du siècle dernier. La domination ottomane s'est exercée durant des siècles au cours desquels les Arméniens ont vécu sous le régime du despotisme, de la cruauté, du pillage et de l'autodéfense perpétuelle. En 1863, le sultan Abdulhamid promulgue la constitution nationale qui est censée donner aux Arméniens un certain nombre de libertés nouvelles. Quelques années après, les armées russes, prétendant défendre les droits des chrétiens en Turquie, entrent en guerre contre elles. La défaite turque contre la Russie en 1878 conduit la Turquie à admettre l'introduction dans le traité de paix de San Stefano, le 3 mars 1878, d'un article exigeant la réalisation de réformes dans les provinces arméniennes sous contrôle des grandes puissances. Il s'agit de l'article 16 de ce traité. Malheureusement, la même année au traité de Berlin, en juin 1878, l'article 61 qui va remplacer l'article 16 ne contient plus cette clause de garantie de la sécurité et s'en est fait un peu de l'autonomie des Arméniens. Cet abandon donc des aspirations arméniennes à une administration autonome au sein de l'Empire ottoman est dû à la complicité de l'Angleterre et de l'Allemagne, puisqu'en échange de la complicité de l'Angleterre, la Turquie va donner à l'Angleterre notamment la gestion de Chypre. Le rapprochement entre l'Allemagne et la Turquie est consacré par la visite de Guillaume II à Constantinople en 1889. Nous pouvons ainsi affirmer que l'article 16 du traité de San Stefano est vraiment l'acte de naissance de la question arménienne. Le rapprochement germano-ottoman affaiblit les positions des autres puissances dans l'Empire ottoman et nous pouvons dire que toutes les conditions semblent réunies pour que le sultan Abdulhamid, dit le sultan rouge, puisse mettre à exécution son projet de liquidation du peuple arménien. Abdulhamid va durcir sa politique à l'égard des Arméniens. Néanmoins, le temps de l'acceptation passive des Arméniens est révolu. Les Arméniens s'organisent politiquement et se structurent. Cette politique despotique d'Abdulhamid va être à l'origine de la révolte des habitants de Sassoun. Cet acte de résistance va donner le signal d'une horrible répression dans tout le pays. À l'aide de régiments hamidiers, puisqu'ils portaient le nom du sultan Abdulhamid, Abdulhamid va être la cause de la mort de 300 000 Arméniens entre 1894 et 1896. Des personnalités illustres telles que Jean Jaurès, Gladstone, Quillard expriment leur désapprobation et leur soutien à la cause arménienne. Durant cette tragédie, un haut dignitaire de l'église arménienne, le patriarche Kliment Hayrik, déclarera « Ce ne sont pas l'égorgement de plusieurs milliers de personnes, la souillure des femmes, la destruction des villages, la dévastation des récoltes qui créent le drame le plus profond, le plus mortel pour notre peuple, mais le départ des exilés, la dispersion de la nation hors de la patrie, à l'étranger, où elle est démoralisée et perd sa conscience d'appartenir à son peuple. » Alors en 1908, le sultan Abdulhamid est déposé. Une nouvelle constitution est programmée. Elle garantit l'égalité de tous devant la loi. Le peuple arménien manifeste sa joie et adhère pleinement au nouveau régime établi par le mouvement Jeune Turc. L'année 1909 marque un retour aux réalités. Les Jeunes Turcs poursuivent la politique d'extermination des Arméniens, entreprise par Abdulhamid. Des idées ultranationalistes laissées peu de temps de côté revoient le jour tels que la Turquie aux Turcs seuls, les éléments non-turcs doivent être turquifiés par la force des armes. Des idées à la répression, le pas sera vite franchi durant le printemps 1909 dans la région de Cilicie. Résultat, 30 000 Arméniens massacrés. Les quartiers d'Adana, qui est une des villes importantes de Cilicie, sont un champ de ruines. Les Arméniens voulurent n'y voir qu'un soubresaut de l'ancien régime agonisant. Mais en 1913, les Jeunes Turcs établissent une dictature militaire dirigée par trois hommes. Cemal Pacha, ministre de la Marine, Enver Pacha, ministre de la Guerre, et Talat Pacha, que nous comparons souvent à Hitler turc, qui était le ministre de l'Intérieur. À cette même époque, la guerre des Balkans avait réduit à une peau de chagrin les possessions ottomanes de l'Europe. Le panturquisme et le pantouranisme, qui prônaient donc une réunification géographique et politique de tous les peuples touraniens, étaient plus que jamais à l'ordre du jour. Et la Première Guerre mondiale allait fournir un cadre idéal pour l'accomplissement du génocide des Arméniens. Ainsi, de février 1915 à la fin de l'année 1916, la population arménienne de Turquie va être victime de la plus effroyable saignée de son histoire. Le samedi 24 avril 1915, le gouvernement turc fait arrêter par surprise tous les intellectuels et notables arméniens de Constantinople, ainsi que tous les chefs des partis politiques arméniens, soit au total 600 personnes. La plupart de ces personnes sont transférées à l'intérieur du pays et seront massacrées par petits groupes. Talat justifiera ces arrestations par la révolte des Arméniens de Van. Dans son télégramme de 1915, d'ailleurs, Talat déclarait, je cite, « Il a été précédemment communiqué que le gouvernement a décidé d'exterminer entièrement les Arméniens habitant en Arménie. Ceux qui s'opposeraient à cet ordre ne pourront plus faire partie de l'administration, sans égard pour les femmes, les enfants et les infirmes, quelque tragique que puissent être les moyens d'extermination, sans écouter les sentiments de la conscience, il faut mettre fin à leur existence. » Talat, ministre de l'Intérieur, le 15 septembre 1915. Ce plan général d'extermination devait se diviser en plusieurs phases. Le premier, c'était le massacre immédiat sur place. La deuxième phase, c'était la déportation. Et d'ailleurs, Talat disait « Quant à l'Arménien, le lieu où il a vécu ne le connaîtra plus, je cite, et le Turc aura ses biens et sa demeure en héritage. » Voilà ce que déclarait Talat. Et enfin, la troisième phase, c'était la mort dans les déserts de Mésopotamie, à Deir ez-Zor, où là, 500 000 personnes, soit presque le quart de la population de l'Arménie turque, se trouvent dans ces déserts. Alors, le bilan de ces atrocités. Sur 2 200 000 Arméniens, 1 500 000 hommes, femmes et enfants sont massacrés. Des milliers d'orphelins, des milliers d'émigrants qui allaient constituer la diaspora arménienne. Et je citerai M. Morgenthau, ambassadeur américain à Constantinople en 1915, qui déclarait « Je suis intimement convaincu que c'est le plus grand crime de tous les âges. » Comme je l'ai évoqué précédemment, le génocide de 1915 a été la cause de la formation de cette diaspora arménienne à partir des années 1920. Donc nous allons maintenant parler juste de l'arrivée des Arméniens en diaspora et faire un bref rappel, un historique des relations entre la France et l'Arménie. Alors il faut rappeler que bien avant les années 20, on constate une émigration individuelle des Arméniens qui remonte au XIIe siècle. On a parlé tout à l'heure du royaume de Cilicie. La croisade et les royaumes francs d'Orient multiplièrent les relations entre la France et le royaume arménien de Cilicie. D'ailleurs, lorsque celui-ci disparaît, je l'ai dit tout à l'heure, son dernier souverain, Léon VI de Lusignan, est français. À l'époque des croisades, il existait des échanges commerciaux entre le royaume arménien de Cilicie et de Nîmes, notamment, de Montpellier et de Marseille. En 1321, le royaume de Cilicie avait accordé des privilèges aux marchands de Montpellier, où, selon les historiens, était affichée à l'université de Montpellier une liste des monnaies arméniennes avec leur équivalence en monnaie française. Sous les de Louis XIII et Louis XIV, les cardinaux Richelieu et Mazarin accordèrent aux Arméniens des facilités commerciales. Ce sont eux qui introduisirent en France la soie, les peaux et les tissus. En 1662, Pascal, un Arménien, apporte avec lui la recette du café, qui deviendra une boisson très vite à la mode, surtout après son installation dans une baraque de la Foire de Saint-Germain à Paris. Et d'ailleurs, en l'an 1700, raconte Saint-Simon, Madame la Chancelière donna un grand bal à Paris. Le buffet où on prenait le thé, le café et le chocolat était tenu par un Arménien. À la fin du XVIIe siècle, attiré par les mesures de Colbert, on trouve encore des marchands arméniens à Marseille, à Montpellier, à Paris, où l'un d'entre eux serait le fondateur du café Procope. En 1760, Jean Alten, de son nom Hovhannes Alten en arménien, introduisit la culture de la garance dans le sud du pays. Et d'ailleurs, tout près d'Avignon, à Alten-les-Palus, a été inaugurée récemment la statue de Jean Alten. Et d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, la couleur de la garance servait à teindre les vêtements des soldats sous Louis XIV. Enfin, en 1812, un décret de Napoléon Ier, dont le garde du corps, le Mamelouk Roustan, était un Arménien, fonde la chaire d'arménologie à l'école des langues orientales. C'est aussi dans ce contexte que se situe la fondation à Paris en 1846, rue Monsieur le Prince, du collège arménien Samuel Mourad, ensuite transféré à Sèvres. Durant tout le 19e siècle, la France joue un rôle important dans la formation des élites arméniennes, qui, fuyant l'autocratie russe et les despotismes ottomans et perses, trouvent en France un espace de liberté. Les étudiants arméniens qui assistent à la révolution de février à Paris applaudissent Lamartine, Victor Hugo, Michelet. À leur retour à Constantinople, ils sont guidés par la volonté de conduire leur peuple vers le progrès. Ils bouleversent et modernisent les institutions de la communauté arménienne de l'Empire ottoman. En France, de 1855 à 1918, nous avons déjà 31 périodiques arméniens qui sont publiés. En 1914, il y a déjà 4000 Arméniens en France, dont 1500 à Paris. Ils y disposent à Paris, notamment depuis 1902, d'un lieu de culte non loin des Champs-Élysées, qui est l'église apostolique arménienne, qui se situe rue Jean Goujon, qui a été à l'époque financée entièrement par un magnat arménien du pétrole qui s'appelait Mantachev. Et vous savez que l'église arménienne, et c'est pas l'objet, est une église autocéphale depuis la fin du 5e siècle et elle a toujours été le symbole de la personnalité nationale. Fuyant aussi la révolution russe, quelques dizaines de familles issues de la bourgeoisie arménienne de Moscou, de Tiflis, de Bakou, s'intègrent à l'émigration russe comme les Pitoyev ou les Lev Tarasov, le futur Henri Troya. Mais la grande migration commence plus tard. C'est en 1922 que commence l'émigration collective des Arméniens de Turquie en France. Ces Arméniens constituent des réfugiés devenus des apatrides à la suite du génocide de 1915, des bouleversements aussi politiques du Proche-Orient et puis de la perte de l'indépendance de l'Arménie et puis de l'abandon des Arméniens par les Alliés. Il s'agit donc ici d'une immigration forcée. Alors venant par bateau de Grèce, de Bulgarie, de Syrie, du Liban, surgit même des orphelinats, ces rescapés débarquent à Marseille animés par un véritable désir de renaissance et de reconstruction. Ils travaillent comme manœuvres dans les huileries, les savonneries, les sucreries, les docks à Marseille. Ils essaiment ensuite dans les quartiers sur Marseille, ouvriers de Saint-Charles, Saint-Louis, Saint-Antoine, Saint-Loup, ce sont des quartiers arméniens de Marseille. Leur atavisme paysan, leur aspiration à l'enracinement après des années d'errance, les pousse vers les communes rurales de Beaumont et de Saint-Julien, qui sont des quartiers qui forment le 12e arrondissement de Marseille. Ils achètent un lopin de terre pour y construire construire eux-mêmes leur maison grâce à l'entraide familiale et des compatriotes. Et même dans leur jardin, ils cultivent herbes, fruits et légumes du pays. Très vite, le long de la côte méditerranéenne et de l'axe rhodanien, autour des mines, des usines et des chantiers, ont surgi de petites communautés arméniennes à Gardanne, La Seyne, Nice, Valence, Romans, Vienne, Grenoble, Lyon, Décines, Saint-Chamond, Saint-Étienne, Toulouse, Bordeaux. Je cite là les villes les plus importantes. Entre les années 1922 et 1936, c'est une grande mobilité géographique qui caractérise les Arméniens. De meilleures conditions de travail les attirent en région parisienne, où l'on trouve dès 1926 la moitié des 60 000 Arméniens de France. À Paris, des hôtels du quartier latin, ils essaiment vers les mansardes de Belleville. Les plus aisés habitent le 9e arrondissement, le quartier des diamantaires, celui des médecins, des imprimeurs, des épiciers. Se groupant par bourg, d'origine en Asie mineure, où ils avaient été paysans, artisans, ils créent de véritables villages arméniens à Alfortville, à Issy-les-Moulineaux, à Arnouville. L'homogénéité sociale et culturelle y favorise la survivance des traditions culturelles, politiques et religieuses. La famille, décimée et dispersée par le génocide, se reconstitue en France et reste pour la première et deuxième génération un modèle et une norme. Enfin, nous pouvons esquisser la sociologie des générations de la diaspora. On en cite couramment quatre. La première génération, eh bien, c'est celle des réfugiés nés au pays, en Arménie. Elle a subi les génocides. Elle a apporté avec elle des dialectes arméniens et les coutumes des diverses provinces de l'Empire ottoman. Les Arméniens de la première génération déracinés, maîtrisant mal ou ignorant totalement la langue du pays d'accueil, restèrent jusqu'à leur mort des hôtes provisoires, je dis ça entre guillemets, vivant à l'étranger. Parce que dans leur fort intérieur, il y avait toujours cet espoir de retrouver leurs terres ancestrales. La deuxième génération, eh bien, elle est composée des orphelins ou des enfants nés dans des camps en Grèce, au Proche-Orient, à Marseille ou sur les navires de l'Exode. Eh bien, elle travailla dur, cette deuxième génération. Elle exerça tous les métiers pour améliorer sensiblement son niveau de vie. Mais rares furent de cette génération à fréquenter collèges et universités. Pour eux, parler l'arménien leur est naturel et s'ils parlent le français, cette langue reste malgré tout la langue du milieu professionnel. Totalement imprégnée des récits de vie villageoise, des récits de déportation et de massacre. Ces hommes et ces femmes de la deuxième génération ont fait vivre les différentes institutions de la diaspora et assuré la transmission de la mémoire. Ensuite, nous regrouperons, si vous voulez, les troisième et quatrième générations qui, elles, sont nées et ont grandi dans les différents centres de la diaspora. Elles se distinguent des deux premières que nous venons de voir parce qu'elles constituent les vraies générations de la diaspora. Elles ont cessé d'être arménophones, elles sont modernes, très souvent diplômées et totalement intégrées aux classes moyennes, urbaines et au secteur tertiaire des sociétés d'accueil. Si elles occupent encore une place importante dans l'artisanat et le commerce, elles occupent aussi des fonctions dans l'enseignement, la recherche, les professions libérales, les métiers d'ingénieur, ceux du spectacle, des médias, de l'art, de la littérature. Il faut aussi rappeler que les rescapés du génocide étant d'origine terrienne, étaient d'origine terrienne et la crise économique mondiale de 1929 a poussé les Arméniens au chômage du fait de la loi Laval qui limitait à 10% la proportion d'ouvriers étrangers dans les entreprises. Et c'est cette conjoncture qui incita les Arméniens à entreprendre au prix d'énormes difficultés un travail artisanal ou commercial. C'est ainsi qu'on les voit se lancer dans la confection, la bonneterie, la cordonnerie et le travail des marchés. Déracinés, exilés, les Arméniens sont, tout comme les réfugiés politiques, crurent que leur présence en France était temporaire et qu'ils allaient pouvoir retourner en Arménie. À partir de 1946, les naturalisations accordées accélérèrent l'intégration des Arméniens en France. Pourtant, en 1946-1947, 7000 d'entre eux vont en Arménie soviétique, une patrie inconnue pour eux car ils sont tous originaires d'Arménie turque. Et cette expérience soviétique fut un choc et dès 1956, le gouvernement français dut intervenir pour leur retour en France. La Deuxième Guerre mondiale fut une nouvelle étape pour les Arméniens vivant en France. Ceux qui avaient été massacrés avaient défendu une certaine idée de la liberté et ne pouvaient rester indifférents à la tragédie que se jouait en Europe. Face au danger du fascisme et à l'occupation de la France, les Arméniens s'engagent dans la résistance. Nous connaissons tous l'histoire du résistant Missak Manouchian, responsable et chef militaire des francs-tireurs partisans immigrés donc de la région parisienne. En 84 ans, les Arméniens se sont parfaitement intégrés à la société française. Ils sont artisans et commerçants, nous l'avons dit, créateurs d'entreprises, mais aussi fonctionnaires, enseignants, journalistes, ouvriers qualifiés, ingénieurs. Les Arméniens de France ont conservé une identité culturelle. Mais l'identité arménienne n'est plus un héritage, c'est une reconstruction où les exigences de la modernité se combinent à des fragments de tradition de langue, de religion, d'écriture, d'idéologie, du travail, de la famille, la cuisine, la musique. Cette reconstruction se combine aussi avec le travail de mémoire sur la fracture du génocide et sur l'errance. Dès leur arrivée en France, les Arméniens se sont attachés à reproduire les principales institutions dont ils s'étaient dotés à la fin de l'Empire ottoman. Ainsi, dans les années 25 à 1930, les Arméniens construisent des églises dans toutes les villes où ils sont présents en nombre. L'église apostolique arménienne, on l'a vu, reste le symbole visible de l'identité arménienne. Aujourd'hui encore, la structure communautaire est fondée sur les églises, les partis politiques arméniens, les associations culturelles et sportives, les amicales, les écoles arméniennes quotidiennes et hebdomadaires. Nous avons actuellement à Marseille la seule école quotidienne de langue arménienne et française qui existe, qui va de la maternelle jusqu'à la terminale. Et puis il y a aussi les scouts, et puis il y a toujours les journaux en langue française et en langue arménienne, qui sont soit mensuels, soit quotidiens. Et voilà, donc comme... Pour en terminer, donc, nous l'avons dit, les Arméniens sont arrivés en 1922. Donc je vais maintenant céder la parole à Isabelle Marillier qui va plus spécialement parler de la communauté arménienne de Marseille puisque les Arméniens, quand ils sont arrivés en France, ils sont arrivés à Marseille par bateau. Voilà, je vous remercie.
Avant d'intervenir sur l'arrivée des Arméniens à Marseille, je pense qu'il est important de souligner qu'il y a eu très peu de travaux scientifiques qui ont été faits, surtout au niveau anthropologique ou ethnologique, sur l'arrivée des Arméniens à Marseille. Donc l'essentiel de l'intervention repose sur les travaux de Émile Temim, qui est l'historien qui a le plus travaillé sur le problème de l'immigration en France. Donc notamment, il a écrit 4 ouvrages sur la migrance et le 3e ouvrage de ses travaux porte sur les Arméniens à Marseille. Comme l'a dit Michel Guévigian, la plus grande majorité donc de l'exode, du départ des Arméniens de l'exil, se situe en 22 et surtout en 23, parce qu'avec le traité de Lausanne qui clôt définitivement la question arménienne, il n'y a plus d'espérance pour ces Arméniens de vivre dans un pays indépendant qui serait le leur. Et donc on jette comme ça des milliers d'Arméniens sur le chemin de l'exil. Il faut savoir que les Arméniens en fait sont chassés de leur pays, on vient de le démontrer. Et de plus, sur leur papier de départ, il y a indiqué la mention « sans possibilité de retour ». Donc la notion d'apatride prend ici toute sa signification. Les milliers d'Arméniens seront, on peut comparer ça à nos sans-papiers d'aujourd'hui, puisqu'ils vivent sans papiers et qu'ils n'ont rien. C'est grâce à Fridtjof Nansen, norvégien, qui a une mission de la Société des Nations, que les Arméniens auront une identification, car ils pourront avoir ce que nous appelons le passeport Nansen, qui est donc une fiche d'identité, un certificat d'identité, qui les dote à ce moment-là d'un statut juridique et légal. Ce certificat d'identité étant reconnu par de nombreux pays, il permet à ces apatrides de pouvoir voyager. La communauté arménienne est souvent citée comme exemple d'intégration en France. Pourtant, il ne faut pas croire qu'elle a été accueillie à bras ouverts. Et comme nous l'avons démontré précédemment, ces Arméniens qui ont déjà souffert et dans leur chair et dans leur âme trouvent en France et à Marseille des esprits bien intentionnés qui conseillent eh bien, qu'on les envoie au Maroc, hein, puisqu'à ce moment-là, c'était encore un pays partiellement insoumis à la colonisation française. Il n'y avait pas de raison qu'on ne les envoie pas là-bas. Et je pense, je vais vous lire une lettre qui est assez significative, qui montre tous les poncifs sur l'immigration qui date de 1923 et qui avait été écrite par le docteur Flessière, qui était à ce moment-là le maire de Marseille. Depuis quelque temps se produit par Marseille un redoutable courant d'immigration des peuples d'Orient, notamment des Arméniens. On annonce que 40 000 de ces hôtes sont en route pour la France, ce qui revient à dire que la variole, le typhus et la peste se dirigent vers nous. S'ils n'y sont pas déjà en germe, pullulant depuis l'arrivée des premiers de ces immigrants, dénués de tout, réfractaires à nos mœurs occidentales, rebelles à toute mesure d'hygiène, immobilisés dans leur indolence résignée, passive, ancestrale. La population marseillaise réclame du gouvernement qu'il interdise rigoureusement l'entrée des ports français à ces immigrants et qu'il les rapatrie. Sans délai, ces lamentables troupeaux humains, gros danger public pour le pays tout entier. Bon, donc, vous voyez qu'à travers cette lettre est posé tous les stéréotypes, tous les clichés du racisme et de la xénophobie. Mais malheureusement, il y a un écho auprès de la préfecture qui répond « Je vous ai déjà signalé les sérieux inconvénients que présente à Marseille une trop grande accumulation d'Arméniens dont la plupart sont privés de ressources. » Les difficultés rencontrées pour leur hébergement et leur nourriture font naître des critiques dans la presse. D'autre part, le besoin peut pousser certains de ces orientaux à commettre des délits. Enfin, la main-d'œuvre arménienne est fort peu recherchée. Bon, on pourrait faire un peu le parallèle avec certaines choses. Hein? Bon, on prend des battes. Et le Quai d'Orsay de l'époque n'en est pas en reste, puisqu'il diffuse une circulaire au consulat français de Constantinople, de Salonique et d'Athènes pour les inviter à refuser ou au moins à limiter au maximum la donnée des visas pour les transports sur Marseille. Enfin bon, donc ces Arméniens arrivent à Marseille et les premiers lieux qu'ils investissent sont les hôtels meublés du centre de la ville, les hôtels Jean-Antoine, Chartreux et Le Vent. Mais bon, ils sont tellement nombreux qu'immédiatement les hôtels sont encombrés et la solution qui est trouvée, c'est de les mettre dans des camps. Alors on va mettre 4 camps à leur disposition. Le camp Mirabeau qui accueille les 400 premiers réfugiés qui arrivent de Smyrne par le bateau trouvé en 1922, hein, parce que vous savez qu'Atatürk a quand même continué avec Smyrne, etc. Et donc, mais ce camp-là, le propriétaire est une entreprise, l'entreprise Vermink, qui va demander à la récupérer, et donc les Arméniens vont partir de ce camp. L'autre camp est le camp de Sainte-Marthe, qui accueille en 1922, pour peu de temps, quelques familles arméniennes. Il y a le camp Victor Hugo, qui au départ était réservé à l'immigration russe, les Russes blancs, etc., mais qui va servir aussi aux Arméniens et qui est un bidonville situé tout près de la gare Saint-Charles. Enfin, je présume que la présence de ces Arméniens, elle a été faite, on peut la constater, parce que quand on a rénové les anciens bâtiments de la faculté des sciences de Saint-Charles, puisque j'y ai travaillé pendant des années, on a trouvé sur une façade, sur une pierre, des inscriptions écrites en arménien. Donc le camp Victor Hugo, en fait, se situait, je ne sais pas si vous connaissez Marseille, dans cette zone-là, tout près de la gare Saint-Charles. Mais bon, on ne peut pas laisser comme ça la misère visible dans le centre-ville, ce n'est pas possible, non ? Alors, on décide en 1928 de transférer les réfugiés dans un lieu beaucoup plus éloigné de la ville, donc qui se trouve dans les quartiers sud, qui n'étaient pas ce qu'ils sont actuellement, hein, puisque c'est plutôt bourgeois actuellement. Mais bon, donc, ils sont situés sur le quartier sud, dans le quartier de Sainte-Anne. Et le dernier camp, et c'est celui-là qu'on va le plus discuter, c'est le camp Odo, parce que c'est là où on va trouver le maximum de personnes, puisqu'en 1923, plus de 3000 personnes sont à l'intérieur de ce camp. Donc je vais passer sur les conditions d'hygiène, de promiscuité, etc. et tout ça, pour montrer quand même comment ce camp s'est organisé, parce que je trouve que c'est très intéressant. Et bien, comme il y avait énormément de monde, on ne pouvait pas laisser faire comme ça, et donc les Arméniens ont créé eux-mêmes une administration interne au camp. C'est-à-dire qu'ils ont nommé un directeur, ils ont nommé un surveillant, un wachtmestre et un secrétaire, et je parlerai tout à l'heure plus tard du secrétaire qui a joué un rôle très important. Donc, ils font comme ça une répartition des tâches, notamment l'entretien, le nettoyage des bâtiments, etc. Il y a un médecin français qui vient faire une visite 2 fois par semaine et qui donne les médicaments de première nécessité. Et puis, bien sûr, compte tenu qu'il y avait énormément d'orphelins qui arrivaient, l'administration française ne peut pas répondre à la demande et on ne peut pas laisser les enfants comme ça. Donc, les Arméniens décident qu'on va créer une école à l'intérieur du camp Odo. Donc l'administration française fournit pour l'enseignement en français 2 fonctionnaires d'État, mais on veut maintenir une culture arménienne malgré tous ces moments difficiles, etc. Donc il y a aussi un enseignement en arménien qui est fait par 6 instituteurs et institutrices de langue arménienne et qui est payé par les gens du camp. Ce qui est important aussi, d'après ce que vous a dit Michel par rapport au rôle de l'Église, c'est que malgré le manque de place, une baraque reste inoccupée parce qu'elle va servir de chapelle. Parce que ce qu'a expliqué aussi Michel, c'est donc l'Église, elle va centraliser autour d'elle cette diaspora. Ça va être le lieu où les gens vont se retrouver, parce que c'est la seule chose qui leur reste de tangible et de concret. Donc on se sert dans les autres baraques et on en laisse une vide pour la chapelle. Le problème, c'est que l'administration donc arménienne de ce camp, elle doit faire face à des problèmes financiers, parce qu'il faut payer l'électricité, il faut payer l'entretien des baraques, il faut assurer l'hygiène, il faut payer la scolarisation, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils décident de ? Ils décident de prendre un écho sur chaque personne par jour. Donc, ça faisait 0,50 de l'époque de 1923, qui était donné par tout le monde, était exonéré de ses cotisations, les enfants de moins de 15 ans, les malades, les invalides, les vieillards et les gens sans emploi. Et bon, il arrivera un moment où il faudra quand même se défaire d'un poste qui pèse énormément lourd dans le budget, et malheureusement ça sera l'école, mais cette école a quand même fonctionné pendant 4 ans. Donc ça a permis quand même aux enfants, soit ils sortaient du système scolaire, soit de pouvoir intégrer petit à petit les écoles laïques. Et ce qui va se développer à l'intérieur de ce camp aussi, c'est une vie sociale, puisqu'il y a une vie en communauté, donc une vie sociale s'organise. Ainsi, par exemple, autour du lavoir, ben, les femmes, elles se rencontrent, elles discutent, elles communiquent. Une coopérative se met en place, notamment au niveau de la distribution des denrées alimentaires, etc. Donc, il y a un peu une autogérance de ce camp qui se met en place. En fait, le rôle du secrétaire est pour nous important parce que cette personne qui s'appelle Alexandre Abadjian, qui est arrivé le premier jour et qui est l'un des francophones assez rares du camp, pendant 5 ans, il va tenir avec minutie un registre des entrées et des sorties du camp. Donc, il va noter sur ce camp les noms, les prénoms, l'âge, le sexe, les origines géographiques et sociales des Arméniens. Bien sûr, ce registre, il est tenu par ordre chronologique. Donc, quand on veut faire des recherches, c'est assez difficile parce qu'on a tendance à les faire par ordre alphabétique, notamment quand ça concerne des personnes. 70 ans après la fermeture du camp, son petit-neveu a décidé d'informatiser ces registres. Et ça aide pour l'étude de l'immigration post-génocidaire. Ainsi, on peut s'apercevoir que dans ce camp, la prépondérance était un nombre élevé de veuves, d'orphelins, de personnes âgées. Et puis, il y avait des cultivateurs et journaliers beaucoup plus nombreux que les artisans, les professions actuelles. Et c'est normal, parce que comme on l'a expliqué, en général, quand il y a comme ça des massacres, des génocides, on commence par tuer toute l'intelligentsia. Donc, on élimine toutes les couches sociales supérieures, etc. Donc, ne se retrouver dans ce camp-là. Mais ces couches sociales, elles vont se reconstituer au fil des générations, et on en a parlé. Cette autogérance dans un camp, bon, on ne pouvait pas, l'administration française ne pouvait pas le tolérer indéfiniment, ce n'était pas possible, parce que ça aurait pu peut-être donner des idées à d'autres, je ne sais pas, bon, toujours est-il que bon, le préfet des Bouches-du-Rhône va demander au gouvernement la liquidation de ce camp, ce qui va être fait, mais bon, il faut dire qu'elle ne se sera pas fait dans la brutalité, comme bon, certaines scènes que l'on peut voir aujourd'hui, je veux dire, elle va se faire lentement, elle va se faire progressivement, avec aussi une résistance de certains Arméniens, parce que pour eux, ce camp, c'est une garantie à moindre coût d'avoir un coucher et la nourriture. Et donc, il faut bien, et il arrive quand même un moment où il y a des pressions, et notamment, bon, si vous ne partez pas, on vous prend tous vos papiers d'identité. Donc, comme on sait que sans papier, bon, on sait très bien ce que l'on risque à l'époque, ce que l'on risque aussi maintenant. Donc, c'était quelque chose d'important d'avoir ces papiers avec soi. Les Arméniens de Marseille, donc, se dispersent, comme l'a dit M. Guévigan, dans les quartiers les plus emblématiques que sont Beaumont et Saint-Antoine. Et c'est à Campagne Fraise, dans le quartier Verduron de Saint-Antoine, que les Arméniens construisent donc leur première église, qui sera consacrée le 23 décembre 1928. Actuellement, une jeune anthropologue est en train de faire une recherche justement sur ce quartier de Verduron à Saint-Antoine, et bon, on attend impatiemment les résultats de ces travaux. Des Arméniens arrivés à Marseille, une partie ne s'arrêtera pas, n'y restera pas. Elle va partir vers les États-Unis ou elle va partir vers l'Amérique du Nord et notamment l'Amérique du Sud, notamment avec l'Uruguay et l'Argentine. Dans le département des Bouches-du-Rhône, en 1935, on dénombre 21 000 Arméniens. Bon, nous pouvons dire actuellement qu'il y a à peu près 80 000 Arméniens dans les Bouches-du-Rhône, dont 50 000 environ sur Marseille. Mais il faut rappeler qu'il y a eu d'autres vagues successives du flux migratoire. Des Arméniens sont arrivés de Turquie, cette fois, donc qui n'ont pas quitté l'Empire ottoman, mais de Turquie, dans les années 50, suite à des pogroms anti-juifs et anti-arméniens qui ont eu lieu à Istanbul, qui se sont commis à Istanbul en 1955. Donc ça a été une autre vague qui est arrivée. Une troisième vague va arriver en 1975. Ce sont les Arméniens du Liban, que nous appelons les Arméniens du Liban. En fait, c'était les Arméniens qui étaient en Cilicie et Alexandrette, donc qui sont déjà partis de là, qui ont eu un parcours très très difficile avant de pouvoir arriver au Liban, sur des terres d'ailleurs achetées par un Arménien très riche. Et ces Arméniens-là, ben, il y a la guerre du Liban, une guerre qui se radicalise au possible, donc ils fuient la guerre, donc une grande partie arrive aussi sur Marseille. Et la dernière migration que l'on connaît, elle date de la fin des années 90, bon, c'est suite au conflit du Haut-Karabakh avec l'Azerbaïdjan. La Turquie, en solidarité avec l'Azerbaïdjan, décide un blocus économique, donc ferme la frontière entre l'Arménie et la Turquie, donc étrangle économiquement l'Arménie. Donc il y a toute une vague de gens qui partent parce qu'ils ne peuvent de survie. Donc je pense que ce qui est intéressant à travers ces flux migratoires, c'est de voir qu'il y a au moins deux ou trois causes différentes de leur départ. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est normal, hein, je pense, c'est que toutes ces vagues successives d'immigrants, elles vont se raccrocher à ce qu'on fait la première immigration, c'est-à-dire qu'elles vont prendre le même parcours, Marseille, Lyon, Paris, avec tout le bassin rhodanien. C'est normal, elles s'inscrivent dans l'espace et le territoire. Et à cet effet, au niveau de la notion d'espace et territoire, il y a un livre très intéressant qui a été écrit par Martine Ovanessian, qui est anthropologue et qui est chercheur au CNRS, qui s'appelle « Les Arméniens et leur territoire », qui existe dans la collection Autrement. Bon, c'est une étude qui est faite surtout sur Alfortville et ici les Moulineaux, mais que l'on peut transporter et reproduire, et je pense que ça peut se faire sur tous les immigrants. Comment on peut s'approprier un territoire et comment la mémoire est reconstituée à travers les noms des rues, des églises et des institutions culturelles. Ce phénomène est très bien illustré par le Centre du patrimoine arménien de Valence, qui a été inauguré en juin 2005, l'an dernier, où d'ailleurs on retrouve donc une copie des registres du camp Odo. Et ce centre raconte l'histoire singulière des Valentinois d'origine arménienne comme une page d'histoire universelle qui témoigne d'une identité et d'itinéraire personnel et collectif marqué par les persécutions, le génocide, l'exil, l'immigration et l'intégration dans les pays d'accueil. Mais ce qui est important, c'est que la mission de ce lieu consiste à faire communiquer le passé et le présent, c'est-à-dire qu'on ne reste pas sur une victimisation, sur un passéiste, etc., mais qu'on montre aussi comment après se fait l'intégration. Bon, ce centre est unique en Europe, il a été entièrement financé par la municipalité, les gens qui travaillent à l'intérieur sont payés par la municipalité, donc je veux dire, c'est politique, je veux dire, c'est quelque chose qui a été fait par la municipalité. Les Français d'origine arménienne représentent environ 10% de la population valentinoise et sont, comme le reste de la diaspora, très bien intégrés dans la vie sociale à la cité, aussi bien au niveau professionnel qu'associatif ou politique, et plusieurs membres sont élus à la mairie. Enfin, puisque nous sommes à Nîmes, nous ne pouvons pas ne pas évoquer le rôle que jouèrent les Arméniens dans la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, dans les FTP-MOI. Ils participent activement à la libération de Nîmes, je ne sais pas si vous êtes au courant, le 23 avril 1944, il y a tout un bataillon arménien qui libère Nîmes, aussi bien que les villages environnants. Et je vais vous lire très rapidement la lettre du maire de la Calmette, donc il y a un village qui n'est pas très loin, qui écrit « Je sous-signais Marcella Roger, maire de la Calmette, certifie que la compagnie 103 FTP-MOI, commandé par le capitaine Petrossian, depuis le 4 août 1944 jusqu'au 29 août, a défendu héroïquement la commune de la Calmette et a empêché de passer au village la colonne allemande, composée environ de 15 à 20 000 personnes. La population du village a regardé la lutte héroïque de la compagnie contre les ennemis, qui avaient la supériorité numérique plus que 100 fois. La compagnie arménienne, avec habileté et hardiesse, a combattu avec sang-froid et courage. En conséquence de ce combat inégal, les Allemands ont perdu environ 200 soldats officiers. 100 prisonniers et 8 blessés, la compagnie arménienne a empêché les Allemands de passer par le village et de le piller comme ils ont fait dans les autres petits villages des environs. En reconnaissance, la population du village posera sur la tombe de ses braves une pierre avec les inscriptions héroïques « Mort pour la libération de la France ». Moi-même et toute la population rendant hommage aux morts et félicitant la bravoure des vaillants défenseurs de notre patrie. Voilà, ça veut dire que non seulement ils étaient dans un pays, ils sont arrivés dans un pays sans papier, et comme l'a dit Michel Guévillard, ils n'ont acquis la nationalité française qu'après la guerre. Pendant la guerre, ils se sont comportés comme tout citoyen, dans un pays dont certains ne connaissaient pas encore vraiment la langue, etc. Voilà, donc je pense que c'était important de vous expliquer comment se gérer ce chaos d'eau, parce que je crois que c'est assez unique, en tout cas à l'époque, comme gestion et comme manifestation de gens qui venaient dans un pays dont ils ne connaissaient rien, dont ils ne connaissaient pas la langue, dont ils ne connaissaient pas les coutumes, et comment ils ont su s'organiser dans ce pays-là.
Voilà, nous allons terminer rapidement. Donc, effectivement, on a parlé tout à l'heure du travail de mémoire de la communauté arménienne sur la fracture du génocide de 1915. Alors, ce travail de mémoire avait véritablement commencé en 1965, lors de la commémoration du 50e anniversaire du génocide. En fin de compte, déjà un an auparavant, le catholicos, sa sainteté, le catholicos Vasquen Ier, qui est mort depuis, qui était le chef de l'église apostolique arménienne, avait demandé à ce que le cinquantenaire soit commémoré et en Arménie et dans toute la diaspora. Alors ce travail de mémoire doit passer inexorablement par la reconnaissance du génocide par la Turquie. Cette dernière s'enferre depuis 91 ans dans la négation du génocide. Elle va même jusqu'à ériger des mémoriaux en l'honneur des assassins responsables de ce crime contre l'humanité. Et nous pouvons voir d'ailleurs sur cette photo le monument érigé en Turquie en l'honneur de Talat, le fameux Hitler turc. Et ce négationniste d'État, même on peut dire qu'il se radicalise et il s'est de nouveau manifesté il n'y a pas très longtemps, en mars dernier, lorsque 3000 ultranationalistes turcs ont déferlé dans les rues de Lyon pour manifester contre un mémorial érigé en souvenir des martyrs arméniens. Et c'était en pleine manifestation CPE, et donc même les manifestants qui étaient là pour manifester contre le CPE se sont tournés contre ces ultranationalistes pour dire « vous n'avez rien à faire ici ». Depuis 1965, les partis politiques arméniens, les associations et les fédérations d'associations telles que le CCF, donc dont nous représentons, Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, s'emploient donc au triomphe de la vérité. L'an dernier a été commémoré le 60e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Cet événement nous a rappelé que ce que l'intolérance de l'homme peut générer comme ignominie. La destruction des 1 500 000 Arméniens aurait dû être considérée comme un signe avant-coureur de la Shoah. On a l'habitude de citer la célèbre phrase d'Hitler qui, en 1939, à la veille d'envahir la Pologne, Hitler disait à ses généraux « N'épargnez ni homme ni enfant, qui parle encore des massacres d'Arménie ?» Un génocide impuni est une prime au crime. Il y a 15 jours de cela, je crois qu'Isabelle Marié était accompagnée ces jeunes, donc le CRIF Marseille-Provence et le CCF Marseille-Provence ont organisé un voyage, le voyage de la mémoire, en amenant une trentaine de collégiens de toutes origines visiter les centres du patrimoine arménien, donc Isabelle en a parlé à l'instant, et puis le mémorial arménien de Lyon, et puis un ancien centre de concentration en Alsace. C'était où exactement, en Alsace ? À Struthof. Donc grâce à l'action, je dirais, on va aller vite parce qu'on a... grâce à l'action des communautés arméniennes, le génocide des Arméniens sort peu à peu de l'oubli. Alors là, vous aurez quelques dates. En 1983, premier point important, adoption par le Conseil mondial des Églises d'une résolution demandant la reconnaissance du génocide des Arméniens. En 1984, le Tribunal permanent des peuples reconnaît le génocide. En 1985, la Commission des droits de l'homme de l'ONU reconnaît le génocide. En 1987, le Parlement européen de Strasbourg reconnaît le génocide et en fait une condition incontournable pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Malheureusement, nos 25 chefs d'État et de gouvernement avaient un peu oublié, ont oublié ça récemment. Enfin, ce serait, on ne va pas rentrer dans un débat qui nous mènerait très très loin. En 1988, reconnaissance du génocide par l'Assemblée nationale française et ensuite, en 2000, par le Sénat français. Et le 29 janvier 2001, le président de la République, Jacques Chirac, promulguait la loi qui est la suivante. La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915. Et puis, ce serait trop fastidieux et trop long, il faudrait aussi citer toute une avalanche de pays et de parlements qui ont reconnu le génocide, qui sont, je dirais, il y en a moins 30-40, hein, Isabelle, si ce n'est pas plus. Hein. Voilà, plus 39 États des États-Unis, donc espérons que M. Bush suivra cet exemple. La communauté arménienne et tous les êtres épris de justice travaillent actuellement effectivement pour que le Parlement français dote la loi du 29 janvier 2001 qui porte reconnaissance d'un génocide d'un volet pénal pour condamner tout négationniste. D'ailleurs, je pense que l'actualité est récente, vous avez dû en entendre parler, où il y a eu un déni de justice et de démocratie, puisqu'on a privé nos députés de pouvoir se prononcer et de voter. Nous étions présents dans l'hémicycle, Isabelle et moi, c'était scandaleux. Les élus de droite et de gauche étaient scandalisés. On a dit déjà qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir, mais là, on ne peut même plus discuter d'une loi, c'est quand même grave. Aujourd'hui, la communauté arménienne de France compte 450 000 personnes. 84 ans après l'arrivée massive en France des rescapés du génocide, on peut se poser des questions sur l'avenir de cette diaspora. Les faits que nous avons relatés précédemment attestent d'une intégration réussie de cette communauté. Elle est parvenue jusqu'à présent à concilier parfaitement cette intégration et son attachement à ses racines religieuses, culturelles et historiques. De ce qui aurait pu être une dualité entre son attachement à ses racines profondes, pleines de richesses, et l'attirance vers une autre forme de culture également riche et diverse du pays d'accueil, la communauté arménienne a su réaliser une réelle combinaison de ces deux cultures pour donner le meilleur d'elle-même. Nous vous remercions pour votre attention.
Las conferències de la 30a Universitat Occitana d'Estiu registrada e prepausada per Radio Languedoc. nous est représentat la Communautat Arménienne de France, formation et organisation, amb Michel Guéviguian, secrétaire, et Isabelle Marillier, del CCAF de Marseille-Provence.